Chapitre 21. Deux voitures filaient à travers la campagne déserte, sous un ciel sombre et menaçant. Elles s'engagèrent à toute allure sur le chemin privé et s'arrêtèrent dans un crissement de freins devant le portail d'un ranch. Silverman, Arrow et Ramos descendirent du véhicule de tête en laissant leur chauffeur à un agent de l'antenne de Sacramento derrière le volant. Trois collègues également attachés au bureau de Sacramento avaient pris place dans la seconde voiture. Sur les hauteurs de la propriété, sous une masse de cumulonimbus, une maison ultramoderne entourée de terrasses en espalier dominait la vallée, tel un navire de verre échoué. De l'autre côté du portail, se dressait un modeste pavillon de style victorien. Avant que Silverman ait pu enfoncer le bouton de l'interphone, la porte du pavillon s'ouvrit et deux hommes s'avancèrent sur la véranda, semblables en tout point. Grands, musclés, rasés de près, les traits impassibles, des yeux de Doberman soigneusement entraînés, le genre de garde du corps malsain que l'on voit parfois dans l'entourage de vedettes du spectacle déboussolées par l'arrivée soudaine de la fortune et de la gloire. L'un des deux hommes s'approcha du portail, pendant que son collègue restait planté devant la maison. Silverman sortit son badge du FBI. « Nous avons besoin de voir M. Schenck d'urgence. »«
Vous n'êtes pas sur la liste. »«
Qui êtes-vous ? » s'enquit Arrow.
« Un agent de sécurité. »
Silverman fut frappé par l'assurance de l'homme, plus encore par l'absence d'émotion dans son regard.
« Contactez votre patron !» lui ordonna Arrow. « Nous avons besoin de le voir immédiatement. Question de vie ou de mort, pour lui !»
Un ronronnement de moteur se fit entendre dans le lointain, du côté de la maison principale, et les deux agents de sécurité se retournèrent. Un roulement de tonnerre couvrit le bruit de moteur l'espace de quelques instants. Le grondement du moteur se transforma en vrombissement et un troisième garde, identique aux deux premiers, sortit à son tour du pavillon. Il tourna la tête vers la maison de la colline, puis dévisagea successivement Arrow et Silverman de façon mécanique. Silverman eut brusquement l'intuition que le masque des trois hommes dissimulait des machines creuses. Il en eut la certitude pour avoir lui-même ressenti une impression de vide similaire à plusieurs reprises depuis le début de cette journée étrange. Dès le réveil dans sa suite de Beverly Hills, lorsqu'il avait découvert une arme inconnue dans le tiroir de sa table de nuit, puis en attendant John Arrow devant l'hôtel avec une nausée incompréhensible, à nouveau au moment où une voix intérieure affublait Jane du surnom de « menteuse patentée », plus tard en décollant de l'aéroport Van Nuys. Les trois hommes semblaient aussi perdus que lui, derrière cette apparence de compétence et de devoir. Il repensa à cette étrange piqûre dans le creux de son bras, à Randolph Cole qui s'exprimait avec la voix de Booth Hendrickson, à Richona qu'il avait oublié d'appeler, ce qui ne lui arrivait jamais tant leur cœur battait au même rythme. Il sut instinctivement, avec une certitude qu'il ne s'expliquait pas, que ces trois gardes étaient des coquilles vides, des formes creuses, des ombres décolorées, et qu'il était sur le point de devenir comme eux. À ce stade, tout pouvait arriver puisqu'il était en train de devenir un autre. L'impossible devenait possible, et le resterait. Frappé par l'horreur de ce qu'il venait de découvrir, il recula machinalement.
« Que se passe-t-il »
s'étonna Ramos.
« Nathan !»
fit John Arrow. Au même moment, le vrombissement du moteur fut ponctué par un fracas assourdissant de verre brisé au niveau de la maison principale. À la lueur des éclairs qui zébraient le ciel à la façon des lumières d'un vaisseau géant au milieu de la brume, John Arrow escalada le portail et hurla aux gardes de laisser passer les voitures avant de se précipiter au pas de course sur le chemin conduisant à la maison. Sans l'ombre d'une hésitation, les deux hommes restés devant le pavillon dégainèrent leurs armes et lui tirèrent dans le dos, le bruit des détonations couvert par le grondement du tonnerre.